discutons ce soir de la question de la retraite. Vous imaginez bien qu'il ne s'agit pas de la retraite de Russie, mais bien effectivement de la retraite à 60 ans, ou 62 ou 65, j'en sais rien. On aura l'occasion sans doute d'en échanger peut-être à ce sujet-là tout à l'heure. Dont, en tous les cas, on a beaucoup parlé cet hiver, qui était qui faisait partie des événements. Donc il s'agit bien d'un des 10 mots de l'année pour comprendre le monde contemporain, parce que ça a tout de même bien agité les foules, beaucoup de salive qui a coulé à ce propos-là, des échanges dans tous les sens, des tensions, des mouvements sociaux, etc. Voilà. C'est peut-être pas la retraite de Russie, mais ça sera peut-être la Bérézina, parce que sur un plan philosophique, eh bien, le sujet est relativement creux, sinon impossible à traiter. D'ailleurs, quand on a choisi les 10 mots, Jean-Noël Dumont m'a dit « Mais qu'est-ce que vous allez dire à ce propos-là? Qu'est-ce que vous allez dire de la retraite ?» Je dis « Bon, on verra bien. » Et alors, évidemment, ce soir, c'est moins évident, puisqu'à partir du moment où on y est, eh bien, il faut quand même pouvoir proposer quelque chose. Alors, j'ai essayé de travailler un petit peu la question. Mais pour vous prouver que, en l'occurrence, il n'y a pas grand-chose à dire, eh bien, j'ai trouvé, il y a quelques mois, un article du Monde à ce propos-là et qui titrait « La retraite, cet état impensable ». Impensable entre guillemets, et c'est un article qui, tout au long, je vais vous le lire, cet article est bien dit tout au long qu'il n'y a au fond rien à dire de la retraite. Alors l'article le dit bien, c'est intéressant, mais dit qu'au fond c'est un concept impossible sur un plan philosophique. Mais comme il y a des choses intéressantes dans cet article, eh bien je vous lis, je vais essayer de le lire le mieux possible, c'est un article qui n'est pas très long, de François Galichet, professeur émérite à l'université de Strasbourg, donc c'est quelqu'un qui est passé de l'autre côté de la barrière puisqu'il est professeur émérite, et il se trouve aujourd'hui dans cette situation que peut-être un certain nombre d'entre vous partagez, on aura l'occasion d'en parler après, bien entendu, puis peut-être au cours de l'intervention, vous n'hésiterez pas à intervenir. Voilà. Et alors, le sous-titre, une période entre congé payé et congé maladie. Bon, voilà, un no man's land, on ne sait pas bien de quoi il s'agit, voilà. Alors, voilà ce que dit François Galichet. Et donc je lis cet article en guise d'introduction et puis je poursuivrai d'ailleurs, vous verrez, sur le mode un petit peu humoristique, y compris sur le plan philosophique, parce que c'était des choses assez drôles. Si l'on essaye de penser la retraite en tant qu'état ou modalité de l'existence, on se trouve vite embarrassé. Et d'ailleurs, c'est au fond, je pense qu'il y a certains, je sais qu'il y a certaines personnes dans la salle qui vont se trouver à la retraite à la fin de l'année, et c'est le cas de Jean-Noël Dumont. Et alors je m'aperçois qu'il n'est pas là ce soir. Alors il m'avait dit il n'y a rien à dire, mais il ne veut rien entendre en fait. Surtout il ne veut rien entendre. Alors je poursuis. Ce n'est pas un état régi par le principe de nécessité. Le retraité touche une pension qui le dispense de gagner sa vie à la sueur de son front, comme le travailleur, et a fortiori de trouver lui-même sa subsistance comme l'animal. On n'est donc pas dans l'ordre du besoin, c'est-à-dire de la vie, cherchant à se maintenir au prix d'efforts et de peines ardues. Mais on ne peut pas non plus l'inscrire dans le champ des activités sociales régies par le principe de l'échange. Donc ce n'est pas régi par le principe de nécessité, mais on ne peut pas non plus, selon l'auteur ici, eh bien, comprendre la retraite dans le champ social par le principe de l'échange. Le travail peut aussi être compris comme appartenant à un système d'équivalence. C'est le cas du travail, un système d'échange. Il a une valeur qui le met en balance avec d'autres valeurs. Il s'inscrit dans un marché, le marché du travail, qui lui-même est inclus dans le marché plus vaste des biens et prestations dont le cours fluctue constamment. Rien de tel pour le retraité. La pension qu'il touche n'est pas un salaire, même différé, puisqu'elle n'est plus soumise aux lois du marché, aux rapports de force qui font varier les salaires à la hausse comme à la baisse. Peut-on alors, troisième hypothèse, penser la retraite sous la catégorie du loisir, c'est-à-dire des vacances, qui relèvent de ce que l'on appelle les congés payés ? La retraite serait une sorte de vacances prolongées et illimitées, un congé payé terminal qui ne s'achèverait qu'avec la mort. Mais ici encore, l'analogie ne tient pas. Dans sa signification moderne, le loisir est un état transitoire permettant donc à la fois un oubli provisoire du travail, c'est une distraction, et la reconstitution des forces qui permettront de mieux reprendre le travail. C'est un repos réparateur. Ça, il faudrait parfois, j'irais faire comprendre aux familles et à nos élèves, puisque assez souvent, on a des élèves qui reviennent plus fatigués des vacances qu'ils ne sont partis. Mais bon, bref, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément compris que vacances, ça signifie d'abord vide. Alors maintenant, il y a des vacances qui sont archi-pleines, archi-programmées dans des lieux... Donc, où il y a tellement d'activités qu'effectivement, ça pompe l'énergie. La retraite comme vacances. Donc, son paradoxe est qu'à la fois, il s'oppose, alors en l'occurrence le loisir ici, au labeur et qu'il l'implique, le favorise, le conditionne. Même pour l'esclave, il n'est pas de travail sans un minimum de repos, donc de loisir. Le loisir est régi par le principe de l'alternance. La retraite, en revanche, signifie la fin définitive du travail. Elle ne saurait donc se penser dans les mêmes termes. Donc vous voyez, troisième hypothèse, celle du loisir au sens des vacances, est exclue. La retraite, on le voit, est donc un état étrange, rebelle à toutes les catégories ou concepts qui s'offrent à la pensée pour tenter de la comprendre. C'est sans doute ce caractère impensable qui explique la propension des retraités à justifier leur état, même quand on ne leur demande pas, soit par les services qu'ils continuent à rendre, soit par le fait qu'ils l'ont bien mérité, soit par un état de santé qui les exempterait de toute contribution ou obligation sociale. J'avais mis de côté un autre article qui commence de la façon suivante, à propos justement de la justification. Alors, c'est Claude Bébéard, donc vous connaissez, un des grands patrons français, etc. Alors, première phrase, à 75 ans, Claude Bébéard est un retraité très actif. Alors, c'est un article complet, il y a une religion de la retraite dont on peine à sortir, entre guillemets, rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure avant de rentrer. Alors, première phrase, à 75 ans, Claude Bébéard est un retraité très actif. Enfin, donc, justification de la retraite, comme l'indique François Galichet. Alors, voilà, c'est sans doute ce caractère... Voilà, excusez-moi. Voilà. Alors, donc, cette justification par des services qu'il continue à rendre, etc., etc. Car de deux choses l'une, ou bien l'homme ou la femme qui parvient à un certain âge est usé, abîmé par des décennies d'un labeur épuisant et pénible, où les vicissitudes de sa santé, et en ce cas, la retraite s'apparente à un congé pour maladie, congé certes indéfini en fait, mais non illimité en droit, puisqu'un improbable rétablissement y mettrait un terme, ou bien le retraité garde les capacités de travailler, et en ce cas, il n'y a strictement aucune raison de principe qui justifie qu'il en bénéficie au terme de sa vie, plutôt que tout au long de sa vie et à tel âge, par exemple à 60 ans, plutôt qu'à tel autre. Le droit à la retraite s'apparente alors au droit général à un congé payé, dont on peut déterminer une durée ou une proportion globale par rapport à la quantité de travail fourni, mais rien de plus. La seule alternative à ce dilemme serait de considérer la retraite comme l'anticipation d'un hypothétique état édénique futur de l'humanité, un Éden, où celle-ci serait totalement dispensée de travailler, parce que les machines le feraient à sa place. Elle s'apparenterait alors au loisir ancien. Les machines joueraient le rôle qui était celui des esclaves dans la société antique. Ça, évidemment, on va y revenir dans un moment. Le moins qu'on puisse dire, c'est que, pour l'instant, on ne s'oriente pas dans cette direction. Partout dans le monde, l'heure est au relèvement de l'âge de la retraite et à la diminution des prestations. Hein, ce qui veut dire ici, c'est qu'au fond, la retraite, eh bien, serait comme une anticipation d'une nouvelle ère où, en quelque sorte, grâce aux 35 heures d'un côté et éventuellement à une retraite plus longue, etc., eh bien on évoluerait vers une société de réduction du travail, éventuellement de disparition du travail, etc. Mais, donc il dit, on en est très loin, puisque au contraire, on relève l'âge de la retraite, etc. Oscillant ainsi, selon les situations individuelles entre congé maladie et congé payé, arrêt de travail pour incapacité et arrêt de travail comme repos, la retraite est donc un état philosophiquement impensable, impossible à conceptualiser. Et d'ailleurs, c'est un thème totalement absent de la philosophie contemporaine. Cela ne signifie pas qu'elle soit injustifiée ni qu'il faille renoncer à défendre l'acquis social qu'elle représente, mais seulement que le droit qu'elle constitue est un droit empirique. C'est pourtant bel et bien un droit, on y reviendra aussi, fruit d'une conjoncture historique particulière et qui ne saurait être universalisée. Autant il est nécessaire de combattre pour un droit du travail qui intègre les conditions éthiques du concept du travail humain, droit au repos, droit à la dignité, droit à un salaire décent, reconnaissance des principes de la démocratie dans le travail, autant la défense du droit à la retraite ne saurait en soi se réclamer d'une légitimité spécifique. C'est une opportunité conjoncturelle, ce ne saurait être ni un droit ni une obligation de principe. Voilà, cet article, je dirais, qui a le mérite d'être assez clair, qui évoque un certain nombre d'hypothèses pour toutes les rejeter en disant, au fond, en dehors d'une situation historiquement marquée, en quelque sorte, on ne voit pas quel peut être le sens de la retraite. Voilà. En quelque sorte, on ne pourrait donc pas penser la retraite, néanmoins, on ne va pas s'arrêter là, parce que le philosophe, va s'intéresser, y compris à ce qui est impensable. Et là, je fais un petit détour, pour une fois, quelque chose qui relève quasiment de l'anecdote, mais lorsque, en l'occurrence, Platon s'interroge pour savoir quels sont les objets de pensée, il lui vient, dans un débat, l'idée de se demander si on peut parler de tout et de n'importe quoi, et pas uniquement au fond des grandes questions. Est-ce que, à côté, par exemple, du concept du juste, du beau, du bien, qui ont largement occupé Platon et ensuite ses successeurs, est-ce que l'on peut parler de choses beaucoup plus terre-à-terre, comme des objets, des choses, le lit, etc., un thème, par exemple, que Platon reprend souvent, et même de choses... par souci de bienséance, on ne parlerait pas, comme par exemple les poils, la boue, la crasse. Il se trouve que cela fait partie, des références connues pour les philosophes. En l'occurrence, le philosophe va se prononcer en disant on peut effectivement parler de tous les sujets, et y compris de celui-ci, donc le poil, la boue et la crasse. Je vous lis un tout petit passage dans le Parménide, qui est, un des grands dialogues de Platon, et j'ai sélectionné justement ce passage pour, au fond, justifier, de façon humoristique, au passage, le fait qu'on puisse s'emparer d'un sujet en quelque sorte aussi empirique que celui de la retraite, puisque par ailleurs, on peut parler de choses aussi dérisoires que la boue, la crasse, etc. C'est un dialogue entre Socrate et Parménide. Crois-tu qu'il y ait aussi, par exemple, quelque forme en soi, et par soi du juste, du beau, du bon et de toutes les choses de cette sorte ? Ce sont les fameuses idées essentielles dont je parlais il y a quelques instants. Le juste, le beau, le bon, on imagine bien que ce sont des idées essentielles, importantes, dont les philosophes vont échanger. Oui, dit-il, répond Parménide. Et aussi une forme d'homme distinct de nous et de tous les hommes comme nous, une forme en soi d'homme, une forme de feu et d'eau. Donc là, on est passé des idées essentielles, et puis on descend à l'homme, et puis à des choses plus physiques comme le feu et l'eau. J'ai été souvent, Parménide, répondit Socrate, perplexe au sujet de ces choses, ne sachant s'il fallait en juger comme des précédentes ou autrement. C'est-à-dire, au fond, les choses qui occupent l'univers physique et pas uniquement les idées qui existent dans le règne, au ciel des idées. Et donc, Socrate dit, j'ai été souvent perplexe pour savoir si on pouvait parler de cela aussi en termes d'idées. L'es-tu aussi, Socrate, au sujet de choses qui pourraient paraître ridicules comme le poil, la boue, la saleté ou toute autre chose insignifiante et sans valeur ? Te demandes-tu s'il faut admettre qu'il y a aussi pour chacune d'elles une forme à part, c'est-à-dire précisément une essence, une idée à part, distincte, elle aussi des choses que nous touchons de nos mains. C'est-à-dire qu'il y aurait une idée de la boue, une idée de la crasse, une idée du poil, etc. Et à partir du moment où il y a une idée, en quelque sorte, à part de ces choses, à ce moment-là, le philosophe, en quelque sorte, peut s'en emparer et en parler. Non, répondit Socrate. Pour les choses que nous voyons, je ne doute pas de leur existence, mais de penser qu'il en existe une idée, une forme, j'ai peur que ce ne soit par trop étrange. Cependant, dit Socrate, il m'est arrivé parfois de me sentir troublé et de me demander si toutes les choses n'ont pas également leur forme, leur idée. Mais quand je me suis arrêté à cette pensée, je m'en détourne en toute hâte, de peur de tomber et de me noyer dans un abîme de niaiserie. Revenu aux choses dont nous avons dit qu'il existait des formes, sous-entendu le beau, le juste, le bien, etc., j'y consacre mon temps et en fais mon étude. Réponse de Parménide. C'est que tu es encore jeune, Socrate, reprit Parménide, et la philosophie ne s'est pas encore emparée de toi, comme elle le fera, j'en suis sûr, quand tu ne mépriseras plus aucune de ces choses. À présent, tu regardes encore à l'opinion des hommes à cause de ton âge. Donc Parménide, sous-entendu, eh bien, dit à Socrate, en fait, donc il existe des idées de toutes choses, y compris de choses aussi dérisoires, dont Socrate disait, j'ai peur de tomber dans un océan de niaiserie si je me mettais à parler de ces choses dérisoires, et Parménide lui dit, écoute, quand tu seras devenu un véritable philosophe, eh bien tu pourras parler de ces choses-là. Alors évidemment, loin de moi l'idée de comparer la retraite à la boue, au poil, à la crasse, etc., mais au fond, voilà, très rapidement et de façon un peu analogique, c'est-à-dire au fond, c'est pas parce qu'un sujet eh bien, semble inconsistant et en tous les cas absent de l'histoire de la philosophie que l'on ne peut pas s'en emparer, hein, un sujet correspondant donc à l'existence humaine, à la vie humaine, qu'on ne peut pas s'en emparer et puis essayer de penser sa consistance, etc. Voilà. Alors, je vous propose trois pistes ce soir justement pour explorer cette thématique donc de la retraite. La première, eh bien, sera une première approche, si vous voulez, un peu comme on parle de théologie négative, par ce que n'est pas la retraite, ce à quoi succède la retraite, ce qui est en quelque sorte l'inverse de la retraite, ce que remplace la retraite, c'est-à-dire le travail. Donc la première piste, ça sera la retraite comme retrait du travail. Et donc dans l'article qu'on voyait tout à l'heure, eh bien on s'est bien aperçu que l'auteur passait son temps justement à rapporter la retraite au travail. On ne peut pas faire autrement. Donc, le retrait du travail. Qu'est-ce que cela peut bien signifier? Pourquoi est-ce que c'est intéressant justement d'analyser la retraite à partir du travail? Voilà. Deuxième piste ensuite. Ici, ça sera une approche en quelque sorte plus positive, au sens où on tâchera de donner un contenu à la retraite. Eh bien, la retraite comme loisir. Et donc, l'article en parlait tout à l'heure, et on reviendra sur cela, et on creusera justement cette thématique de la retraite comme loisir. Le loisir, non pas au sens, je dirais, où on l'entend aujourd'hui, qui relève essentiellement du divertissement, mais dans la tradition, en particulier philosophique, du loisir, c'était évoqué tout à l'heure à propos du monde grec, ce que pouvait représenter, par exemple, donc pour les Grecs, le loisir. Est-ce que, analogiquement, on peut analyser la retraite en ces termes-là? Et puis, troisième étape que je vous proposerai, et de ce point de vue-là, on pourra évoquer l'analogie de la retraite militaire, alors pour le coup, au sens sans doute pas de la retraite de Russie, parce qu'elle n'était pas très stratégique, mais du recul qui existe aussi bien dans la retraite militaire que dans le recul que l'on prend par rapport à un problème, ou encore une retraite au sens monastique du terme, ou d'une retraite que l'on fait dans un monastère, etc., pour prendre du recul. Donc la retraite comme recul, qu'est-ce que peut bien signifier effectivement ce recul, ce temps de recul dans l'existence humaine. Voilà, trois pistes, elles sont certainement pas exhaustives, et donc vous n'hésiterez pas. Je vais essayer d'aller relativement vite sur chacune des pistes, et puis vous n'hésiterez pas à intervenir, faire un petit signe pour intervenir à un moment ou un autre, pour enrichir un peu cet échange. Alors, je pars de ce qui, à nouveau, au fond, de la fin de l'article que je lisais en guise d'introduction, c'est-à-dire le fait que la retraite, eh bien, est en quelque sorte une situation historiquement marquée, une opportunité historiquement marquée, et donc là, l'auteur s'en servait pour dire, c'est rien de plus que cela, mais partons déjà de cela, il s'agit bien d'une opportunité conjoncturelle dans une société donnée qui est la société occidentale, à un moment donné. Et donc, nous le savons tous, il s'agit d'une mesure de l'État-providence en 1945. Je suis allé voir un tout petit peu avant, pour ne pas arriver sans biscuits, ce soir, mais au fond c'est très compliqué avant 1945. C'est-à-dire qu'il y a deux lois qui précèdent, une en 1910 et une en 1930, donc il y a deux autres lois. Celle de 1910 s'intitule donc la retraite ouvrière et paysanne, celle de 1930 je n'ai pas trouvé de titre, enfin peu importe, je ne vais pas aller tellement chercher plus loin. Et donc ce sont en fait des lois qui développent effectivement le droit donc à la retraite, non pas pour l'ensemble des salariés, mais pour des catégories de salariés, donc celle de 1930 l'étend, l'élargit, mais ces deux lois, et ça c'était intéressant, sont des lois 1910 et 1930 par capitalisation, de retraite par capitalisation. Et donc quand on dit au fond le droit à la retraite date de 1945, et puis on sait bien qu'il n'y a pas uniquement cela, hein, c'est je dirais après la Seconde Guerre mondiale, la mise en place de l'État-providence avec la sécurité sociale, bon, etc., etc., et bien c'est parce que c'est la retraite par répartition. D'accord ? Et donc là, effectivement, c'est un clivage important. Sachant qu'avant 1910, déjà au cours du XIXe siècle, et on pourrait dire même avant, il y avait, si vous voulez, des embryons de retraite dans le cadre de certains métiers, c'est-à-dire dans, si vous voulez, dans le cadre mutualiste, hein, avec déjà les corporations, et puis le mouvement mutualiste au cours du XIXe siècle, il y avait déjà un certain nombre d'embryons. Bon, historiquement, ça serait intéressant d'aller regarder de près. Je vous avoue, je n'ai pas regardé le détail. Hein. L'idée n'était pas de faire un historique détaillé de la retraite, voilà. Mais donc, au fond, c'est, la retraite appartient bien de ce point de vue-là à l'historique des mouvements sociaux qui ont en quelque sorte un passé, qui s'inscrivent dans une histoire, en particulier donc la modernité économique, l'histoire industrielle, etc. Et puis, à un moment donné, de même que pour la sécurité sociale, etc., eh bien, ça a été établi comme un droit général avec cette dimension donc de la répartition. Alors, de ce point de vue-là, la retraite, eh bien, elle suppose, comme c'est une retraite par répartition, elle suppose la redistribution, d'accord, hein, de certains agents économiques vers d'autres, en quelque sorte, agents économiques, qui sont toujours des agents économiques parce qu'ils consomment, et en quelque sorte, ils ne travaillent plus, mais ils consomment, donc ils sont quand même inscrits, si vous voulez, dans le système économique, dans l'ensemble du grand marché économique, hein, à titre de consommateur, donc il y a cette redistribution. Cette redistribution elle-même, eh bien, elle suppose une économie formelle, avec prélèvement, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit bien que par exemple, je dirais dans les sociétés où l'économie est informelle, il n'y a pas de retraite possible, hein. Dès qu'on a voyagé, je dirais dans un certain nombre de pays d'Afrique où l'économie est majoritairement informelle, ben, il n'y a pas de retraite, raison pour laquelle par ailleurs la démographie est importante, raison pour laquelle par ailleurs le mariage est tardif parce qu'il faut payer une dot donc aux beaux-parents qui est un élément en quelque sorte de retraite pour les beaux-parents, enfin bon, etc., etc. Donc là, on a d'autres systèmes en quelque sorte, je dirais, de solidarité sociale pour faire vite et tout. Mais donc on est très loin d'une retraite telle qu'on la connaît nous, qui suppose effectivement une économie formelle avec prélèvement et donc au fond qui n'est possible qu'à partir de la généralisation du salariat. D'accord ? Ou assimilés, c'est-à-dire les professions libérales, qui sont effectivement, qui ne relèvent pas du salariat, mais qui, du point de vue des prélèvements, eh bien, en quelque sorte, font l'objet du même type de prélèvement, etc. Hein ? Et donc, tout cela permettant l'assurance sociale en général, que ce soit santé, que ce soit retraite, etc. Voilà, donc le cadre. Voilà. Alors, deuxième remarque, ce droit à la retraite comme opportunité conjoncturelle, etc., dont on vient de voir, je dirais, ce qu'il suppose, etc., eh bien, si vous voulez, suppose aussi, comme en quelque sorte sous-bassement, une valorisation du travail. C'est-à-dire que le système économique dont on vient de parler, la généralisation du salariat, l'économie formelle, etc., donc là on est au niveau du système économique, mais au fond ce système économique repose lui-même sur un soubassement qui est la valorisation du travail. Bon, même dire, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, ça nous paraît vraiment une évidence, hein, mais en fait ce n'est pas du tout une évidence. C'est-à-dire que cette valorisation du travail, c'est une particularité historique propre, donc à la civilisation occidentale, et même à la modernité de la civilisation occidentale, un instant, on peut s'arrêter, si vous voulez, pour prendre la mesure de la particularité de notre civilisation par rapport à ça. Il n'y a aucune autre civilisation qui ait valorisé le travail comme nous. D'ailleurs, très clairement, les autres grandes civilisations de l'humanité ont au contraire dévalorisé le travail et l'ont réservé aux esclaves. Précisément, il y a quelque chose d'inouï et d'incroyable qui est propre à la modernité occidentale, et ce n'est pas, je dirais, la seule dimension, mais qui fait de même que on passe d'une société houliste à une société individualiste, de même, il y a toute une série de passages et de transformations qui constituent donc la modernité occidentale, mais à propos du travail, eh bien là, il y a une spécificité, une originalité incroyable et en quelque sorte unique dans l'histoire de l'humanité. Comment est-ce que l'activité vile, qui était réservée donc aux esclaves dans l'Antiquité, et par ailleurs aux classes, aux couches les plus basses, populaires, agricoles, rurales, les nobles dans l'Ancien Régime, eh bien, étant des hommes d'honneur, c'est-à-dire, au fond, je dirais, des hommes de combat, de courage au combat, eh bien, comment se fait-il que l'activité vile ait pu se généraliser à ce point-là en étant valorisée? Il y a, de ce point de vue, une révolution au sens fort du terme, c'est-à-dire un véritable retournement. Ce qui était, en quelque sorte, vil, à dire, au niveau ras des pâquerettes, eh bien, a été complètement retourné. Et donc, ce soubassement, en l'occurrence, est fondamental pour la modernité occidentale. Alors, par contraste, je vous ai apporté une petite curiosité, entre autres, après la première donc de Parménide, je vous en ai apporté une autre, là, et donc même chose, petite parenthèse récréative, ce soir, Le droit à la paresse, de Paul Lafargue, que certains d'entre vous connaissent sans doute. Par contraste, justement, si vous voulez, il y a des gens en Occident, chez nous, qui ont essayé de dire que c'était complètement aberrant de valoriser comme ça le travail. Alors, je dirais, quand on les lit aujourd'hui, on se dit, bah oui, le recul, la prise de recul mérite, d'être emprunté un instant, d'être assuré un instant pour se rendre compte à quel point, justement, il y a quelque chose d'extrêmement spécifique et de tout à fait unique dans la valorisation du travail. Avant d'aborder la fac, par exemple, je lisais un article, ça remonte déjà à un certain temps, mais j'ai gardé ça à l'esprit parce que ça m'avait beaucoup frappé. Un article dans un magazine un petit peu sérieux, il disait, au fond, ce qui est étonnant, c'est que aujourd'hui, eh bien, ce sont les couches supérieures qui travaillent le plus dans notre société, dans les couches supérieures de la société qui travaillent le plus. Et puis, en descendant dans la société, eh bien, plus on descend, moins on travaille. Voilà. Alors que, en l'occurrence, on a un véritable retournement de société, voilà, ça n'a jamais existé, ça, jamais. D'accord ? Toujours, dans toutes les civilisations, les couches supérieures travaillaient le moins, et plus on descendait, plus on travaillait. D'accord ? Voilà. Mais effectivement, qui est-ce qui travaille aujourd'hui ? Eh bien, ce sont ces catégories les plus supérieures. Plus on s'élève, en quelque sorte, bon, sauf peut-être lorsqu'on atteint, le top du top de gens qui vivent de revenus considérables, de capitaux, etc., mais qui sont, aujourd'hui en nombre très très limité. Voilà. Hein ? Mais, les couches supérieures de nos sociétés occidentales, eh bien, sont les couches les plus attachées au travail. Paul Lafargue, donc gendre de Karl Marx. Vous savez que pour la petite histoire, effectivement, il a épousé la fille de Karl Marx. Et alors, parenthèse dans la parenthèse, parce que c'est tout à fait extraordinaire, on s'offre un tout petit moment récréatif. Eh bien, Karl Marx, ne voulait pas de Paul Lafargue comme gendre. Parce que Karl Marx, tout aussi révolutionnaire qu'il était, eh bien, était, d'un coincé, d'un conventionnel incroyable dans sa vie familiale et concernant en particulier sa fille. Il était hors de question que sa fille épouse un révolutionnaire. Hors de question. Alors, je vous lis deux ou trois passages délicieux à ce propos. Ensuite, ça sera un peu plus sérieux, mais parce que je le tiens dans les mains. Voilà. Écoutez ce qu'écrit, donc ça n'a rien à voir avec la retraite, il y a un petit moment récréatif, ça vaut son pesant d'or. Écoutez ce qu'écrit Karl Marx, donc à Engels, donc grand, collaborateur de Marx à l'époque, grand tenant du communisme, etc. Voilà ce qu'écrit Marx, on pourrait imaginer qu'il parle de révolution, etc. J'ai écrit aujourd'hui une longue lettre en français à la Fargue pour lui dire que les choses ne pourraient aller plus loin et aboutir à un arrangement que lorsque sa famille m'aura fourni des renseignements positifs sur sa situation économique. Écrit ça à Engels. La suite, et dans la dizaine qui suit, il précise par un autre courrier. Le père m'a écrit de Bordeaux, a demandé le titre de fiancé et m'a fait du point de vue financier des conditions très favorables, dit Marx. Voilà, donc ça s'arrange, mais néanmoins, Marx, une fois que les conditions financières sont établies, la Fargue a une fortune familiale et tout, donc ça va mieux de ce point de vue-là. Mais tout n'est pas réglé, parce que la Fargue est un jeune homme fougueux, et Marx trouve qu'il sert d'un peu trop près sa fille. Alors, Marx écrit à la Fargue. Voilà ce qu'il lui dit. « Si vous voulez continuer vos relations avec ma fille, il faudra reconsidérer votre méthode de faire la cour entre guillemets. Vous savez bien qu'il n'y a pas d'engagement pris, que tout est encore provisoire, et même si elle était votre fiancée, en toute règle, vous ne devriez pas oublier qu'il s'agit d'une affaire de longue haleine. Les habitudes d'une intimité trop grande seraient d'autant plus déplacées que les deux amants habiteront la même place pendant une période nécessairement prolongée de rude épreuve. J'ai observé avec effroi, dit Marx, vos transformations de conduite d'un jour à l'autre pendant la période d'une semaine. À mon avis, le véritable amour se traduit dans la réserve, la modestie et même la timidité de l'amant devant son idole, et pas du tout dans le laisser-aller de la passion et les démonstrations d'une familiarité précoce. Si vous plaidez votre tempérament créole, était créole, c'est mon devoir à moi d'interposer ma raison entre votre tempérament et ma fille. Si, auprès d'elle, vous ne savez pas aimer d'une manière qui cadre avec le méridien de Londres, qui habitait à Londres, il vous faudra vous résigner à l'aimer à distance. Voilà, lettre de Marx à son futur gendre. Néanmoins, les affaires se sont arrangées, la situation financière était suffisamment confortable pour que Marx passe sur le tempérament créole de son gendre. Voilà. Alors, il y a un tempérament créole qui a peut-être poussé justement la Fargue à dénoncer, parce qu'on verra, rapidement pour terminer cette partie, que Karl Marx est très ambigu par rapport à la question du travail, enfin qu'il y a une ambiguïté, qu'il y a une dialectique par rapport au travail, mais alors la Fargue son gendre absolument pas. Alors lui est absolument pas ambigu, il considère que effectivement le travail donc est une invention moderne de la bourgeoisie qui donc enrégimente le peuple, pour faire vite, hein, dans les usines, dans les fabriques, etc. etc. Là. Et que, en l'occurrence, le peuple se laisse enrégimenter. Alors, je vous lis deux ou trois passages. C'est bien écrit, il y a beaucoup d'allants, etc. 12 heures de travail par jour, voilà l'idéal des philanthropes et des moralistes du 18e siècle. C'est-à-dire que la Fargue attaque les penseurs du 18e qui, effectivement, sont les premiers, et puis derrière, ils ont été suivis par Hegel, etc., on va en parler, donc à valoriser justement le travail. Que nous avons dépassé ce nec plus ultra. Les ateliers modernes sont devenus des maisons idéales de correction, où l'on incarcère les masses ouvrières, où l'on condamne aux travaux forcés pendant 12 et 14 heures. Non seulement les hommes, mais les femmes et les enfants. Je lis une petite note. Au premier congrès de bienfaisance tenu à Bruxelles en 1857, un des plus riches manufacturiers de Marquette, près de Lille, M. Scrive, aux applaudissements des membres du congrès, racontait avec la plus noble satisfaction d'un devoir accompli. Nous avons introduit quelques moyens de distraction pour les enfants. Nous leur apprenons à chanter pendant le travail, à compter également en travaillant. Cela les distrait et leur fait accepter avec courage ces 12 heures de travail qui sont nécessaires pour leur procurer des moyens d'existence. 12 heures de travail. Et quel travail imposé à des enfants qui n'ont pas 12 ans. Les matérialistes regretteront toujours qu'il n'y ait pas un enfer pour y clouer ces chrétiens, ces philanthropes bourreaux de l'enfance. Fargue est un révolutionnaire à fond, évidemment. Alors, je poursuis. Et dire que les fils des héros de la terreur se sont laissés dégrader par la religion du travail au point d'accepter, après 1848, comme une conquête révolutionnaire, la loi qui limitait à 12 heures le travail dans les fabriques. Il proclamait comme un principe révolutionnaire le droit au travail. Honte au prolétariat français. Des esclaves seuls eussent été capables d'une telle bassesse. Il faudrait 20 ans de civilisation capitaliste Il faudrait 20 ans de civilisation capitaliste à un grec, des temps héroïques, pour concevoir un tel avilissement. J'ai évoqué tout à l'heure le loisir au sens grec du terme et tout, on y reviendra tout à l'heure, mais vous voyez que la Fargue reprend cette référence, etc. Et si les douleurs du travail forcé, si les tortures de la faim se sont abattues sur le prolétariat, plus nombreuses que les sauterelles de la Bible, c'est lui qui les a appelées. Donc là, la Fargue, de toute façon, c'est le prolétariat qui est responsable de ces malheurs, puisque c'est lui qui a appelé la loi sur le travail, etc. Ce travail, qu'en juin 1848, les ouvriers réclamaient les armes à la main, ils l'ont imposé à leur famille. Ils ont livré aux barons de l'industrie leurs femmes et leurs enfants. De leurs propres mains, ils ont démoli leur foyer domestique. De leurs propres mains, ils ont tari le lait de leurs femmes. Les malheureuses enceintes et allaitant leurs bébés ont dû aller dans les mines et les manufactures tendre les chines et épuiser leurs nerfs. De leurs propres mains, ils ont brisé la vie et la vigueur de leurs enfants. Honte aux prolétaires. Où sont les commères dont parlent nos fabliaux et nos vieux comtes hardis aux propos franches de la gueule luronne, toujours trottante, toujours cuisinante, toujours chantante, toujours semant la vie et engendrant la joie, enfantant sans douleur des petits seins vigoureux. Nous avons aujourd'hui les filles et les femmes de fabrique, chétives, fleurs, aux pâles couleurs, au sang sans rutilance, à l'estomac délabré, aux membres alanguis. Elles n'ont jamais connu le plaisir robuste et ne sauraient raconter gaillardement comment on cassa leurs coquilles. Et les enfants, 12 heures de travail aux enfants, misère, etc., etc. Donc là, vous voyez, c'est tout sur ce, je dirais, sur cette, avec cette fougue, etc. Voilà. Un petit passage, voilà, par exemple, à propos de la durée du travail, Villermé observait que les forçats des bagnes ne travaillaient que 10 heures, les esclaves des Antilles 9 heures en moyenne, tandis qu'il existait dans la France qui avait fait la révolution de 89 et qui avait proclamé les pompeux droits de l'homme des manufactures où la journée était de 16 heures, sur laquelle on accordait aux ouvriers 1h30 pour les repas. Il y a un petit passage là en note qui est intéressant, parce qu'il signale, si vous voulez, le fait que la modernité, c'est aussi la modernité bourgeoise, la modernité économique, etc. Il y a un passage intéressant là. Sous l'Ancien Régime, les lois de l'Église garantissaient aux travailleurs 90 jours de repos, 52 dimanches et 38 jours fériés, pendant lesquels il était strictement défendu de travailler. C'était le grand crime du catholicisme. La cause principale de l'irréligion de la bourgeoisie industrielle et commerçante. Là, on est bien dans la veine marxiste sur laquelle, selon Marx, c'est la bourgeoisie qui a fait la révolution, donc pour, au fond, imposer, je dirais, ses principes et lancer l'économie moderne, rendre la propriété disponible, on a déjà parlé, etc. Sous la Révolution, dès qu'elle fut maîtresse, la bourgeoisie abolit les jours fériés et remplaça la semaine de 7 jours par celle de 10. Sans doute. Pourquoi il dit ça? Enfin, sans doute par le nombre d'heures travaillées, enfin, j'en sais rien. Elle affranchit les ouvriers du joug de l'Église pour mieux les soumettre au joug du travail. La haine contre les jours fériés n'apparaît que lorsque la moderne bourgeoisie industrielle et commerçante prend corps, voilà, etc. Et donc ça commence avec Henri IV, qui demanda leur réduction au pape. Il refusa parce que l'une des hérésies, dit le pape, qui court aujourd'hui, est touchant les fêtes. Mais bon, etc., etc. Bon, etc. Voilà. Est-ce que... Bon, je ne veux pas aller plus loin. Donc voilà. Enfin, c'est intéressant, si vous voulez. Hein. Vous voyez, on voit bien que, je dirais, il y a toute une série de passages, de transformations. Et au fond, dans l'Ancien Régime, on avait justement donc 90 jours par an où il était strictement interdit de travailler, etc. Et donc, la liberté, eh bien, c'est le fait de pouvoir travailler, de supprimer les jours fériés, de pouvoir travailler beaucoup plus, bon, etc. Voilà. Alors, cette modernité, donc je dirais où le travail est central, eh bien, on l'avait évoqué, trouve son origine, je rappelle ça très très rapidement, à propos du travail, dans la pensée anglaise, les penseurs anglais comme Locke. Enfin, Locke est vraiment au cœur de cela. J'avais évoqué dans une précédente intervention sur les gratuits. Hein, j'avais évoqué cela. Voilà. Hein. Locke, qui, au fond, si vous voulez, on est dans cette ambiguïté de l'égalité en droit qui fait qu'au fond, eh bien, nul ne peut être écarté en quelque sorte du festin. Et donc, Locke, dans l'état de nature, eh bien, octroie à tous les individus le droit de travail et le droit de propriété. premier droit, c'est le droit de travail, tout individu. Et c'est fondé en nature, évidemment, puisque pour pouvoir se nourrir dans la nature, il faut bien travailler, puisque c'est la condition pour pouvoir subvenir à, voilà, etc. Mais d'autant tout individu, si vous voulez, de ce droit de travail, de ce droit de propriété, eh bien, précisément, on rentre, si vous voulez, dans cette généralisation, justement, du travail avec Locke, garanti par l'État, puisque ces droits sont garantis par l'État, droit du travail et droit de propriété, et par ailleurs, dont la circulation est assurée par le système économique. Hein. Et donc là, on a le lancement, si vous voulez, de la modernité politique et économique. Voilà. Hein. Alors, avançons un petit peu, c'est l'occasion, si vous voulez, de rappeler à quel point, eh bien, précisément, si la philosophie ne s'est pas du tout emparée de la retraite, par contre, dans la modernité, elle s'est vraiment emparée du travail, au XIXe siècle, avec un penseur comme Hegel, considère en l'occurrence le travail comme une condition d'humanisation. C'est-à-dire que c'est à travers le travail que l'homme devient ce qu'il est, non seulement parce qu'il actualise ses compétences, mais par ailleurs parce que le travail est l'occasion d'une prise de conscience de lui-même. Parce que dans le travail, eh bien, il y a l'affrontement à une extériorité, à un objet qu'il n'est pas, mais qu'il façonne, qu'il transforme, et qui, donc, à l'issue du processus du travail, eh bien, va être comme un miroir pour le travailleur qui va pouvoir donc y découvrir son identité, ce qu'il est véritablement. Au fond, pour Hegel, eh bien, tant que le sujet est enfermé en lui-même, eh bien, il ne sait pas exactement ce qu'il est. Il a des impressions, il a des perceptions du monde extérieur, mais au fond, eh bien, il est envahi, si vous voulez, soit par, je dirais, des émotions internes, soit par des impressions qui lui viennent de l'extérieur. Mais qu'est-il exactement? Il ne le sait pas. Et donc, il ne peut le savoir véritablement qu'à partir du moment où, en quelque sorte, percevant quelque chose, il se perçoit lui-même dans ce quelque chose. C'est précisément donc le miroir. Et le travail, eh bien, correspond exactement donc à, je dirais, cet effet miroir, puisque le travailleur, eh bien, en façonnant l'extériorité, y met de lui-même. C'est la façon dont Locke justifiait la propriété. Précisément parce que l'homme met de lui-même dans l'objet de son travail que cet objet lui appartient, puisqu'il y a de lui-même dans cet objet, eh bien Hegel reprend cette réflexion sur la propriété et il l'utilise à propos de l'humanisation, à propos de la conscience de soi. En transformant l'objet, eh bien, l'homme se découvre dans cet objet qu'il a transformé à son image. Hein. C'est la fameuse dialectique du maître et de l'esclave de Hegel dont vous avez entendu parler en général. Ce qui est très intéressant, tout de même, on s'y arrête quelques instants, parce que là on est, je dirais, sur une immense page philosophique, hein, la dialectique du maître et de l'esclave, qui se trouve dans un des grands ouvrages de Hegel, La phénoménologie de l'esprit. Je voulais apporter, est-ce que je vais lire? J'en sais rien, on va voir. C'est très difficile, et Hegel, j'ai eu la chance d'avoir un des très grands intellectuels français de ces dernières décennies comme professeur à la Sorbonne, qui s'appelait Claude Bruère, donc quelqu'un qui a beaucoup écrit, et donc qui était un grand analyste de Hegel. Et j'avais assisté à une analyse donc du maître et de l'esclave, de la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel, donc à la Sorbonne, une leçon qu'il avait donnée sur le sujet. Et alors, cela me, en quelque sorte, me libère pour vous en parler de la façon la plus simple et la plus empirique possible, puisque effectivement, c'est ce qu'avait fait donc Claude Bruère lors de cette leçon. Il disait tout simplement, au fond, eh bien, deux hommes, donc à l'aube de l'humanité, qui ne savent pas encore ce qu'ils sont. Eh bien, de retour de chasse, disait Claude Bruère, l'un avec un gigot de gazelle sur une épaule et l'autre bredouille, se rencontrent au coin du bois. Et qu'est-ce qui se passe au coin du bois? Eh bien, évidemment, le gigot d'antilope fait des envieux, la bagarre commence pour le gigot d'antilope. Mais la bagarre, eh bien, très vite, change de sens ou de nature parce que dans l'affrontement entre les deux hommes, eh bien, se joue autre chose que le gigot d'antilope qui devient finalement un prétexte. D'autant que, eh bien, les individus perçoivent qu'il y a autre chose comme enjeu que simplement l'objet. Et ce qui se joue dans la bagarre, eh bien, c'est effectivement l'identité de soi et pas uniquement un objet extérieur. C'est pas uniquement l'avoir, mais l'être. Parce que celui qui va gagner la bagarre gagnera certes le gigot d'antilope, mais bien autre chose à l'issue de la bagarre. Puisque, en tant que gagnant, eh bien, il aura pouvoir sur l'autre, il aura la reconnaissance de l'autre, il aura, au fond, le regard effrayé de l'esclave qui, se tournant, on voit bien que Hegel n'y était pas, se tournant vers le maître, précisément, eh bien, le reconnaîtra comme maître et lui offrira la reconnaissance, ce qu'il n'avait pas encore. C'est la première manche, en quelque sorte, de l'histoire du maître et de l'esclave de Hegel. Il y a le maître, eh bien, est maître, après avoir gagné, il se reconnaît maître, en quelque sorte, dans le regard effrayé de l'esclave. Mais Hegel dit, eh bien, cette affaire-là, qui est la plus vieille histoire de l'humanité, puisque la violence est la plus vieille histoire de l'humanité, c'est une reconnaissance tronquée. C'est une reconnaissance insuffisante. C'est, au fond, la vieille histoire de l'humanité traditionnelle, mais c'est une reconnaissance tronquée parce que elle est momentanée. C'est-à-dire que le maître ne se reconnaît comme maître qu'une fois qu'il a vaincu sur l'esclave, mais après, l'esclave vaque à ses occupations, le maître prend du loisir, précisément, et on oublie assez vite, en quelque sorte, la question de la reconnaissance, etc. Ça ne va pas très loin. Et la deuxième étape commence alors, et contre toute attente, eh bien, Hegel va dire, celui qui gagne dans l'affaire, c'est l'esclave, parce qu'il travaille. Et que, dans le travail, eh bien, il va se rapporter à l'extériorité qu'est la nature, il va la transformer à son image, et ce faisant, eh bien, dans la durée, il informe la réalité, il la transforme, etc. Il lui donne, je dirais, sa propre image. Et dans son travail lui-même, eh bien, il va reconnaître ce qu'il a. Il va découvrir son identité. Et elle dit, eh bien là, il y a une reconnaissance qui est beaucoup plus fondée que la première. Sous-entendu, l'expérience du travail pour Hegel, eh bien, est une expérience qui est beaucoup plus fondatrice, qui est beaucoup plus solide pour asseoir la conscience de soi humaine que l'expérience donc de la violence. Et Hegel, de ce point de vue-là, eh bien, en quelque sorte, oppose les deux grandes époques de l'humanité, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé avant la modernité, dans toutes les sociétés où, la violence donc était en quelque sorte le mode de relation entre les hommes, et puis ce qui advient lors de la modernité, c'est-à-dire justement le développement, le passage au travail, le développement de l'économie, où là, en l'occurrence, eh bien, l'homme ne s'affronte plus à un autre homme, semblerait-il, mais va s'affronter à la réalité, va s'affronter aux choses, etc. Et donc, dans l'économie, eh bien, va en quelque sorte y découvrir une reconnaissance et une identité mieux fondée que celle de la violence. Donc, dialectique du maître et de l'esclave de Hegel. Donc, on a, et Marx reprendra exactement cela, on a, si vous voulez, toujours cette idée que le travail, eh bien, est au fondement donc du développement des compétences, des capacités humaines. Alors, chez Marx, je l'évoquais tout à l'heure, si vous voulez, il y a en l'occurrence, justement, une dialectique, puisque fondamentalement, le travail est humanisant pour l'homme, mais évidemment, historiquement, eh bien, compte tenu des conditions, par exemple, au XIXe siècle, de l'industrialisation, des rapports de production entre les hommes, etc., eh bien, là, le travail est aliénant, parce que il y a l'extraction de la plus-value, il y a l'aliénation du travail en tant que tel qui abîme les hommes, enfin, bon, etc., etc. Donc là, chez Marx, eh bien, il y a, d'un côté, une vision positive, l'humanité prométhéenne, hein, cette image qui a souvent été reprise pour la pensée de Marx, hein, l'humanité prométhéenne qui transforme le monde, etc. Et par ailleurs, l'analyse, si vous voulez, des conditions, des données historiques du travail qui sont aliénantes pour l'homme, etc. La retraite, dans tout ça, eh bien, au fond, c'est l'aboutissement d'une vie de travail, en quelque sorte, l'aboutissement d'une vie de travail, aussi bien sur un plan personnel que collectif, et de ce point de vue-là, dans cette conception moderne du travail, eh bien, la retraite, si vous voulez, c'est comme, au fond, une forme de, on pourrait dire quasiment de rétribution, à la manière d'un salaire, donc une récompense, je dirais, il y a différentes manières d'exprimer cela, qui vient à l'issue, je dirais, d'une vie consacrée au travail. Et les cérémonies d'ailleurs auxquelles donnent lieu les départs à la retraite manifestent bien cela, c'est-à-dire que c'est l'occasion, en quelque sorte, si vous voulez, de reconnaître justement ces années d'engagement dans une entreprise, dans une école, que sais-je, etc. Toutes ces années passées de travail régulier, fiable, responsable, etc. De reconnaître les qualités de la personne, de remettre pourquoi pas la médaille du travail ou les palmes académiques, que sais-je. Donc on connaît tout cela, différentes récompenses du travail, etc. Mais on voit bien, si vous voulez, que effectivement, voilà, hein, l'ensemble fait système de ce point de vue-là et que la retraite s'articule de ce point de vue-là, cette conception très positive du travail, qui est une conception moderne et strictement moderne. Voilà. Et donc, la retraite, eh bien, de ce point de vue-là, c'est bien l'après-travail. Alors, comment lui donner, en quelque sorte, une positivité, un contenu à la retraite ? Par le loisir. En tous les cas, on peut, je dirais, évoquer cela. Le grec en parlait en termes de scolé, le latin en termes d'otium. C'est le loisir de l'homme libre qui s'adonne à des activités exaltant sa liberté, la gymnastique pour les Grecs, l'amitié, la philosophie, la politique, etc. Toute activité valorisée, en particulier chez les Grecs, autant d'activités de l'homme libre, de l'homme qui avait la chance d'être libre, par rapport à l'esclave qui, lui, donc, était soumis aux contraintes de l'obéissance, du travail, etc., etc. Voilà. Empiriquement, la retraite de bon nombre, je dirais, de nos contemporains, ressemble à cela. C'est-à-dire entretien physique, vie sociale, vie politique, pourquoi pas en tant qu'élu, vie philosophique, par exemple au collège supérieur, hors des contraintes, etc., etc. Donc on peut, je dirais, on n'est plus contraint, on fait un choix, etc., d'activité, etc. Quelque chose de très proche, hein, du loisir au sens, si vous voulez, donc antique du terme. Voilà. C'est le signe, me semble-t-il, et le rappel que l'existence ne se joue pas tout entière, donc dans le travail, dans une fonction, dans un système d'efficacité, hein, d'économie généralisée, de marchandisation, etc. Hein. Et pourtant, on en parlait tout à l'heure avant d'entrer, la fonction professionnelle a un poids considérable aujourd'hui, hein, dans une économie généralisée, dans une marchandisation toujours plus importante, hein, c'est-à-dire effectivement le fait que de plus en plus d'activités tombent, je dirais, dans le système marchand, plus uniquement les activités marchandes qui sont marchandes, mais de plus en plus d'activités le deviennent, pourquoi pas la culture, pourquoi pas l'enseignement, pourquoi pas la santé, etc., hein. Les Américains sont très loin devant nous de ce point de vue-là, mais je dirais, nous sommes dans des sociétés qui tendent, c'est le terme néologisme qui est utilisé, à se marchandiser de ce point de vue-là. Hein, voilà. Et donc, la fonction professionnelle occupe, je dirais, de plus en plus de place. Hein, difficile d'avoir une reconnaissance sans fonction professionnelle, sans place précisément, je dirais, dans ce système généralisé de l'économie. Les personnes qui sont privées de travail, le ressentent très très durement, cela, c'est extrêmement un véritable problème d'identité, etc. Et alors, néanmoins, eh bien, la retraite est susceptible justement de nous indiquer que peut-être la vie ne relève pas uniquement justement d'une définition fonctionnelle et d'une place dans un système donc d'efficacité, un système économique d'efficacité. Et donc à partir de là, eh bien, on peut évoquer effectivement le fait qu'un certain nombre de dimensions humaines qui sont conditions d'humanisation sont essentielles, eh bien, sont fondées sur la gratuité. Le lien social, en termes de voisinage et de solidarité, qu'on va par exemple exprimer en termes de bénévolat, de militantisme, etc., pour faire vite. Le politique, la préoccupation de la chose commune, l'amitié, selon Hannah Arendt, donc on va exprimer là en termes de citoyenneté, eh bien, relève aussi justement de cette dimension de gratuité. J'évoque justement ce terme d'amitié chez Hannah Arendt parce qu'elle le reproche souvent des Grecs. C'est-à-dire pour nous, l'amitié, c'est quelque chose de complètement privé, si vous voulez, vous voyez, une affaire complètement privée. Et alors, Hannah Arendt, dans un très grand texte, rappelle que chez les Grecs, eh bien, l'amitié, c'était d'abord et avant tout un lien public entre les citoyens, soucieux précisément, je dirais, des affaires communes, des affaires publiques, etc. Et donc l'amitié s'exprimait dans, au fond, cette relation virile de rencontres, d'échanges, de débats autour de la chose publique. Et donc, à travers l'attachement à la collectivité, la République, à laquelle la chose publique, à laquelle ils appartenaient, et non pas, au fond, cette amitié comme chose privée, donc telle que nous la connaissons, nous, au fond, à partir du XVIIIe siècle, à partir, je dirais, de la pensée de Rousseau, etc., donc on a une sorte de privatisation, donc, de l'amitié. La culture, troisième dimension justement de ces conditions d'humanisation, au sens des œuvres de l'esprit, le monde artistique, la sagesse, etc. Hein, donc qui relève justement de cette gratuité, si vous voulez. Le religieux, donc à travers la figure de la sainteté, hein, à chaque fois une figure, hein, donc le religieux à travers la figure de la sainteté, d'autres figures moins engagées ou moins engageantes que cela, si vous voulez, qui relèvent aussi justement donc de cette dimension de la gratuité. Et donc, en ce sens-là, eh bien, en quelque sorte, le retraité, délivré des vicissitudes obligeant à travailler pour gagner sa vie, pour subvenir à ses besoins, etc., est peut-être, justement, et on le voit, c'est bien le cas, susceptible, si vous voulez, de prendre plus de place et en tous les cas de donner du sens à cette période de loisir à travers justement ces grandes dimensions. On aperçoit par exemple que un certain nombre d'élus, souvent des élus locaux, eh bien, parce que justement, ils ont, pas parce qu'il y a besoin de temps et que par contre, il n'y a pas de rémunération à la clé, par exemple, des conseils municipaux, dans des villages ou des maires, etc., sont des retraités, de jeunes retraités qui peuvent, voilà. Puis comme cela, on pourrait passer en revue les diverses dimensions que j'ai évoquées, dans le social ou autre, et s'apercevoir qu'il y a, de ce point de vue-là, je dirais, pas mal de retraités, voilà. Donc, cette dimension de loisir. Troisième dimension, troisième piste maintenant, troisième orientation, la retraite comme recul. Alors, on pourrait dire que de ce point de vue-là, eh bien, la retraite serait comme un détour pour mieux accéder à l'essentiel. Un détour pour mieux accéder à l'essentiel. Et donc, je reprends des analogies que j'évoquais tout à l'heure. De ce point de vue-là, la retraite militaire, eh bien, est une analogie qui est intéressante. Et après, précisément, la retraite, c'est un détour, ou un recul, ou un détour, si vous voulez, pour, en quelque sorte, rejoindre, donc aboutir à l'objectif poursuivi. Lorsqu'on ne peut pas l'avoir directement, eh bien, en quelque sorte, la retraite stratégique, c'est un recul qui va permettre, dans un second temps, une contre-attaque, ou que sais-je, bon, etc. À partir du moment où ce n'est pas la déroute, la bérésina. Le recul devant le problème, un problème, eh bien, je dirais, on prend du recul pour le traiter. Et donc, ça ne veut pas dire que, je dirais, on le fuit, ça ne veut pas dire qu'on lui tourne le dos, mais qu'au contraire, eh bien, en quelque sorte, on va l'aborder avec plus de distance, plus d'objectivité, plus de méthode, etc. La retraite, au sens monastique du terme, soit pour les moines eux-mêmes, le mouvement monachique, donc, dans son origine, ceux qui vont vivre au désert, etc., ou celui qui va vivre une retraite dans un cadre religieux, spirituel, que sais-je, etc., eh bien, qui précisément va reculer, va se sortir d'eux, en vue de l'essentiel. Donc on voit bien là que la retraite qui peut sembler en quelque sorte vide de sens, eh bien, peut être au contraire un temps, soit de loisir, comme j'indiquais il y a quelques instants, soit davantage peut-être encore, eh bien, un temps de décalage, un temps de recul vis-à-vis de l'essentiel. Alors, qu'est-ce que c'est que cet essentiel ? Qu'est-ce que c'est que cet essentiel ? Ce qu'il y a, comme le disait l'article tout à l'heure, je dirais, à la fin de la retraite, comme horizon de la retraite, c'est la mort. Alors, et donc on voit bien que cet essentiel, il est signalé, est-ce que c'est la mort ? Sans doute pas. Mais que, en tous les cas, la mort comme événement donc considérable de l'existence, eh bien, donne en quelque sorte, je dirais, à ce temps qui la précède, eh bien, précisément, toute sa valeur, tout son sens, toute son importance, etc. Donc, la mort n'est sans doute pas cet essentiel visé par ce temps de recul, ce temps de retrait, etc. Mais par contre, il donne à cet essentiel, je dirais, toute sa valeur. De ce point de vue-là, on le sait bien, s'il n'y avait pas la mort, eh bien, au fond, la question de l'essentiel ne se poserait pas. On pourrait vivre indéfiniment dans le provisoire, on pourrait s'installer indéfiniment dans les activités, je dirais, les plus superficielles qui sont celles que nous menons au quotidien, bon, parce qu'en partie, il faut bien les mener, etc. Et précisément, les grandes questions, les questions essentielles, les questions difficiles qui renvoient assez souvent, je dirais, à des révisions de vie, raison pour laquelle, eh bien, on fait tout pour ne pas se les poser, etc. Parce que c'est quand même un peu difficile. Les révisions de vie, eh bien, si on vivait sans cet horizon de la mort, eh bien, précisément, donc, ces questions, on ne se les poserait jamais. D'ailleurs, on se les pose rarement, même si à l'horizon de la mort. Et, en général, il faut vraiment que nous tombent sur le coin de la figure les événements les plus douloureux, ce que les philosophes appellent les situations limites, pour qu'on se mette, effectivement, à se dire, bah oui, au fait, tiens... pour sang de bois, est-ce qu'il ne faudrait pas que je... Voilà, est-ce qu'il faudrait que je prenne un peu de temps pour réfléchir à ceci ou à cela? C'est vrai que... Est-ce que j'ai raison de vivre comme cela? Est-ce que ma vie est bien engagée de cette manière-là, etc. Les situations du type décès de proches, etc., sont en l'occurrence l'occasion parfois de révisions assez déchirantes en disant, bon sang de bois, mais j'ai vécu tout ce temps comme si je m'en étais pas aperçu, qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps-là, est-ce que, bon, etc., etc. Voilà. Donc, moment, je dirais, situation limite où tout à coup, il y a, je dirais, l'événement va provoquer effectivement le recul. Et donc, l'interrogation sur sa propre vie. Vous connaissez le roman magnifique de Camus, La Chute, roman magnifique, en même temps extrêmement difficile, énigmatique, etc., où cet avocat vit dans, dans la réussite, dans la gloire. Il est annulé par son entourage, y compris, je dirais, pour ses bonnes actions, parce que c'est un avocat qui défend les causes perdues, etc. Donc, eh bien, il lui arrive, je dirais, il passe par une situation limite qui est... vous connaissez l'histoire, il traverse, je crois que c'est le Pont-Neuf à Paris, et puis il côtoie une silhouette penchée sur le parapet, il la dépasse, et puis quelques mètres après, il entend un grand plouf, et il continue son chemin. Il n'arrête pas, il continue son chemin, etc. Et évidemment, cet épisode, eh bien, va le retourner sur lui-même, et donc le conduire en quelque sorte à une relecture de son existence, et il découvre que finalement il a vécu toute sa vie de cette façon-là, c'est-à-dire en passant en quelque sorte à côté de silhouettes, donc qui les unes après les autres, je dirais, disparaissaient, et donc sans en quelque sorte se poser jamais de questions sur sa manière de vivre, voilà. Donc révision de vie, et donc on a ce texte prodigieux justement, donc qui est comme une forme d'accusation personnelle, donc une prise de conscience, une sorte de découverte, je dirais, de la nature de son existence par ce personnage, voilà. Mais parce que précisément, eh bien, il y a à un moment donné justement la rencontre de la mort. En l'occurrence, en l'absence de la mort, eh bien, la vie reste ignorante d'elle-même. Voilà. Et donc, il n'y a que la conscience de la mort qui conduit, en quelque sorte, la vie à prendre conscience d'elle-même, de son prix, de sa valeur, et donc qui peut permettre une interrogation, si vous voulez, sur effectivement l'existence. À condition, en quelque sorte, d'y croire à la mort, puisque, comme par exemple dit Peggy, eh bien, je sais que je suis mortel, mais je n'y crois pas. C'est-à-dire qu'effectivement, ce terme... est en quelque sorte tellement, je dirais, tragique pour nos existences qu'il est en même temps l'éternel refoulé pour nous, pour nous-mêmes. C'est-à-dire qu'effectivement, on sait bien qu'on est mortel, etc., mais comme le dit Peggy, on n'y croit pas. C'est-à-dire que, précisément, je ne crois pas à ma propre mortalité, je renvoie ça donc à une période ultérieure, on verra bien, on aura bien le temps, etc., etc. Voilà. Et donc, à ce moment-là, eh bien, peut-être que la retraite, d'ailleurs au sens, je dirais par exemple, de la retraite qu'on va faire dans un monastère ou que sais-je, ou la retraite des moines, etc., peut-être que la retraite, eh bien, de façon, je dirais, plus essentielle, plus ultime, c'est ce moment, parce que, en quelque sorte, eh bien, c'est un dernier temps, eh bien, ça peut être justement ce moment où la vie, donc, sait ce qu'elle est, parce que précisément, eh bien, elle peut, je dirais, en quelque sorte, se mesurer à la mort. Alors que, tant que, en quelque sorte, on est dans le volume d'activité quotidien, dont Pascal parlait en termes de divertissement, hein, aussi important soit-il, la vie professionnelle, etc. Alors, Pascal n'y allait pas avec le dos de la cuillère, il appelait cela le divertissement de la vie, eh bien, en rappelant qu'au fond, la seule chose sérieuse, c'est précisément justement cette prise de conscience de la mort, etc. En l'occurrence, peut-être que la retraite, eh bien, peut se saisir de façon essentielle dans cette analogie, justement, au recul par rapport à cet événement tragique qu'est la mort, et donc à un moment où finalement, eh bien, la vie peut se saisir d'elle-même et au fond eh bien se décider pour ce qu'elle a d'essentiel. D'être qu'au fond eh bien à ce moment-là je dirais certaines révisions sont possibles. Il y a peut-être de ce point de vue-là un espace possible, un loisir suffisant, loisir au sens de la deuxième étape, un loisir suffisant pour permettre en quelque sorte une révision vis-à-vis de l'essentiel, alors que cela n'a pas forcément été possible dans l'occupation, dans la suroccupation de la vie quotidienne, etc. J'ai trouvé dans un roman qui vaut pas énormément de choses, mais donc il y a un passage dont... parce que ma femme l'a lu, elle ne lit pas de mauvais romans, mais bon, il y a un passage donc intéressant là dans cet ouvrage de Michel Manceau, Le fils de mon fils. Vous connaissez là, il y en a qui l'ont lu ce roman, non ? Pas très connu. Voilà. Il y a un passage que je vous ai apporté parce que justement, j'ai trouvé qu'il était très intéressant à propos de ce que je suis en train d'évoquer. Alors il faut que je le retrouve. Je n'ai pas marqué la page. J'ai sûrement marqué quelque part quand même. Est-ce qu'il y a plusieurs pages de Cornet ? Oh, il y en a plusieurs. Donc ça doit être une autre. Voilà. À propos justement de cette époque de... Enfin, je dirais de ce... Voilà. Alors, c'est Barthes qui est évoqué, Roland Barthes. Le milieu de la vie, dit Barthes. Alors, milieu de la vie, bon. Pas forcément la retraite, n'est-ce pas ? Mais je trouve que c'est intéressant analogiquement pour justement la retraite. Le milieu de la vie, dit Barthes, c'est quand le point où l'on se sait mortel devient celui où l'on se sent mortel. Alors, ça évoque ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Peggy, hein, je sais que je suis mortel, mais je n'y crois pas. Et donc, dit Roland Barthes, au fond, le milieu de la vie, alors à quoi est-ce qu'il pense comme âge ? On n'en sait rien. Voilà. Mais au fond... Ça pourrait peut-être être une, si vous voulez, un sommet pour la retraite, précisément ici. C'est le point, le moment où l'on se sait mortel, parce que tout le monde se sait mortel, hein, voilà. Donc on fait attention, on prend des assurances vie, au quotidien, on fait attention, on essaye de, on est dans une société très très sécurisée, donc on se sait mortel, donc on se protège, etc. Voilà, donc là, il n'y a pas de souci de ce côté-là, hein. Et que les choses sont claires. On se sait bien mortel avec toutes les protections qu'on prend, toutes les assurances qu'on a, etc. Mais c'est le moment où l'on se sent mortel. Voilà. Et c'est là où, en l'occurrence, il y a un passage. Lorsque la vie devient solennelle, lorsqu'on voit son avenir dans la répétition, il faut tout casser. Généralement, un deuil fait l'affaire. On change de statut. Il ne s'agit pas de changer de doctrine, de théorie, de philosophie, de méthode, de croyance, bien que cela paraisse spectaculaire, mais de rechercher une forme nouvelle, un style. Personnellement, cette recherche consciente me passionne, tandis que dans ma jeunesse, je ne savais même pas ce que je cherchais. Vieillir, c'est se retirer progressivement du monde des apparences, dit Goethe. Vieillir, c'est se retirer progressivement du monde des apparences, dit Goethe, au fond de ce monde, je dirais, qui est le monde tangible, réel, efficace, qui fonctionne, je dirais, à pleine vapeur, etc. Et qui, précisément, est le monde du travail, principalement, donc avec un système économique très, très développé, très étendu, qui se développe de plus en plus, etc., qui est totalement à l'opposé de la retraite, ou auquel la retraite est totalement à l'opposé, et précisément, on voit bien que là, il y a un clivage. Alors, ça ne veut pas du tout dire que lorsqu'on est dans le monde du travail, on ne peut absolument pas, en quelque sorte, se sentir mortel, etc., absolument pas. C'est complètement idiot, hein. Ça voudrait dire que l'homme est un être totalement déterminé, si vous voulez, totalement conditionné, etc. Mais, au fond, là, ce sentir mortel, cette, en quelque sorte, cette prise de conscience, et pas uniquement ce savoir, mais cette prise de conscience pour moi-même que je suis mortel, et que, à ce moment-là, eh bien, en quelque sorte, mon existence donc a précisément une valeur et un prix parce que elle est limitée, et que de ce point de vue-là, eh bien, compte tenu, je dirais, de ce temps limité, eh bien, il s'agit de ne pas en quelque sorte le gaspiller, en faire n'importe quoi, faire comme si ce temps ne valait rien, etc., etc., mais au contraire, je dirais, en prendre la mesure et lui donner du sens, eh bien, il est certain que cet exercice-là, qui est au fond l'exercice de la sagesse, hein, au sens où, de ce point de vue-là, eh bien, par exemple, bon, c'est Cicéron qui a dit cela, mais en reprenant la sagesse grecque, philosopher, c'est apprendre à mourir, etc., hein, cette grande tradition de la sagesse, etc., selon laquelle, eh bien, justement, la mort était comme l'aiguillon, je dirais, du sens de l'existence, ce qui lui donne du prix et ce qui, donc, réveille, au fond, l'existant par rapport, au, je dirais, à la valeur et au sens de sa propre vie, etc., eh bien, cette dimension de notre propre vie ne peut pas être rejoint dans, je dirais, le fonctionnement quotidien, le bruit, le vacarme, etc. C'est-à-dire que précisément le loisir, alors précisément la deuxième étape, c'est-à-dire le loisir au sens entre guillemets noble du terme, pas le loisir au sens de la distraction, bien que ce soit légitime, il faut respirer, il faut s'amuser, bon, etc., etc., mais le loisir au sens là précisément antique du terme, c'est-à-dire le moment où je peux donner du temps pour l'essentiel, est certainement un moment essentiel de l'humanisation, c'est précisément un moment où je peux prendre du recul par rapport au fonctionnement effréné de l'économie, du travail, etc., et où je peux prendre la mesure de mon existence et m'interroger sur le sens de mon existence. Voilà. Donc là, on retrouve, je dirais, la grande tradition de la sagesse. Et donc finalement, la retraite est loin d'être un sujet donc non philosophique, comme nous le disait là, tout à l'heure notre auteur, François Galichet, mais la retraite, de ce point de vue-là, hein, est un sommet qui peut rejoindre la grande tradition de la sagesse, où au fond, ça peut être un moment justement privilégié, justement de recul, pour prendre la mesure donc du prix de l'existence, de la valeur de l'existence et du sens de l'existence. Voilà. Nous allons rester là. Il reste quelques minutes pour échanger. Et peut-être pour vous, quelques minutes pour compléter, parce que bon, voilà, hein, ce sont des ébauches, des perspectives, des ouvertures. Est-ce qu'il y a des remarques? N'hésitez pas. Est-ce que certains d'entre vous ne sont absolument pas d'accord sur tel ou tel point dans, je dirais, les quelques ébauches que je vous ai proposées ce soir? Est-ce que j'ai assommé tout le monde avec la retraite? Tout à l'heure, vous me disiez en entrant que ça ne vous semblait pas évident. C'était en quel sens, finalement, là le... Oui, parce que tout à l'heure, on a eu un petit échange.
On va toujours expliquer sûrement ce que je disais. Moi, il se trouve que pour différentes raisons que je vais poser, je ne travaille pas depuis 15 ans. Je suis officiellement à la retraite depuis, disons, 4 ans, près de 4 ans. Et je ne pense qu'à une chose, c'est à retravailler. Moi, ça me casse les pieds, là. Je ne comprends pas l'espèce de phobie de gens qui n'inspirent qu'une chose, c'est à ne plus rien faire. Ou faire ce qu'ils croient, ce qu'ils croient qu'ils vont faire, qu'ils vont pouvoir choisir de faire.
Ouais.
C'est un peu que je crois. Parce que, pour moi, il y a une chose que je crois que vous n'avez peut-être pas tellement évoquée, c'est que le travail permet à quelqu'un de se positionner, d'accord. Mais ce n'est pas ce que je crois le plus important, c'est que le travail permet à quelqu'un surtout d'exister. Ce que j'entends par exister, c'est à se confronter, se dépasser, se comparer, ça.
Mmh.
Bon, alors c'est peut-être, il y a d'autres moyens de le faire, sûrement. Je veux dire de faire tout ça. Mais, moi c'est pas parce que je ne fais rien que je fais rien. Je fais un paquet de choses, bon, arrêtez là. Et contrairement à ce que vous disiez, qu'à la retraite, paraît-il, on sécurise, on. Enfin, c'est pas tout à fait ça ce que vous disiez, mais. Bon, on essayait de calmer, je me souviens pas.
Mm-hmm.
Je me souviens pas tout à fait de ce que vous disiez, mais j'ai un peu en tête le fait que vous disiez que la retraite est un temps. Avant, c'était le temps de la performance. Après, c'est le temps du cardio. Pour ma part, c'est peut-être le fait que je ne travaille plus, mais pour moi, au contraire, c'est le temps du risque. Je prends un maximum de risques. Parce que c'est mon truc, peut-être. Bon, chacun va me dire à sa porte. Bon. Mais je ne vois pas pourquoi la retraite permettrait d'avoir un style de vie de je sais quelle part ailleurs, différent de celui du moment où on travaillait.
Mmh.
Bah, je sais pas, il y a sûrement une
réaction. Allez, allez-y.
En vous écoutant, je pense à cette vieille sagesse populaire. Je vais enfin planter mes choux.
Mmh.
Je ne vais pas donc rien faire.
Oui, oui.
Le rêve populaire, c'est de changer d'activité. Et là, l'idée bien, c'est que pour actuellement, il y a tout un choix possible de vous poser. On va très vite, n'est-ce pas? On peut faire de la politique, on peut faire de la culture, on peut faire. Il y a un choix énorme, n'est-ce pas, de qui est donné aux retraités. Si, du coup, le problème de la préparation, c'est-à-dire de la retraite, de savoir à quoi occuper, qu'est-ce qui sera vraiment intéressant, qu'est-ce qui mènera à l'essentiel, là, ça se prépare.
Oui, en fait. Tout à fait. Oui.
Je peux faire pour que vous aviez la possibilité de le faire avant, ça. C'est toujours pas. Les gens me disent, toi, t'as de la chance, t'as le temps. Je trouve ça une profession tellement stupide. Parce que on organise son temps en fonction de ses priorités.
Oui, oui.
Moi, j'ai pas de temps à perdre. Désolé.
Oui. Non, moi je crois que ce que vous dites est significatif, c'est-à-dire que si vous voulez, bon, je
fais
le fait, enfin, votre remarque, ce qu'on entend bien, c'est que et ça, moi je pense que c'est très difficile à vivre. Hein, là, on l'a bien entendu. On est dans un système, je dirais, économico-social très serré, où par exemple la libération de la femme s'est obtenue par le salariat, et donc où, de ce point de vue-là, eh bien, la reconnaissance passe par là. Et donc on le sait très bien, les personnes qui ne peuvent pas, en quelque sorte, qui ne sont pas dans le système, qui en sont exclues, pour faire vite, eh bien vivent, et c'est parfaitement compréhensible, vivent en général très mal cette situation, parce que précisément, elles sont de fait exclues en bonne partie, je dirais, de ce qui fait le lien social, de ce qui tisse les relations, etc. Voilà, ça c'est évident. Hein. Donc, de ce point de vue-là, la retraite peut sembler justement un temps problématique, parce qu'il est en dehors, en quelque sorte, du système économique, etc. Mais peut-être, dans ce que j'ai évoqué, il se trouve que par ailleurs, dans ces dimensions du loisir au sens noble du terme, par exemple le politique, etc., eh bien, il y a aussi, en quelque sorte, du lien, je dirais de la raison d'être, etc., qui peut s'organiser en dehors du système économique lui-même. Hein, voilà. Oui.
Deux points, je ne sais pas si c'est éminemment philosophique, mais bon.
Non, mais allez-y, on échange, hein, mais pas.
Premier point, il y a quelque chose qui me dérange, c'est que vous n'avez pas abordé une dimension sociale de la retraite entendue comme le moment où on s'arrête de travailler pour percevoir une pension de retraite, qui est apparue avec le premier choc pétrolier et qui s'est largement aggravée pendant 30 ans, qui est une notion. Je vais dire méchamment, de mise au rebut.
Oui, qui est la pré-retraite, vous voulez dire.
Alors,
ce qu'on appelait la pré-retraite, oui, d'accord. Oui, d'accord.
D'un certain
nombre
de personnes, du système productif, pour faire soi-disant de la place, ou plus exactement pour faire des économies.
Oui.
Faire de la place était moins important, on ne mettait pas en pré-retraite.
La retraite comme variable d'ajustement.
Exactement. Et ça a eu une incidence, je pense, assez importante, en particulier dans les mentalités. Et quelque part, j'entends dans le discours de ce monsieur quelque chose qui
résonne.
Traduit un petit
tout
peu
à fait.
Ça.
Et
ce que je trouve assez impressionnant, c'est que dans les théories économiques depuis Adam Smith, on utilise des variables d'ajustement en tout genre, mais jamais le fait de se débarrasser d'une partie de sa force productive. Aujourd'hui, dans le même temps, on a des théories socialistes qu'on va pas tarder à voir ressurgir, maintenant qu'ils en sont à la publication de toutes sortes de choses, qui disent « mais redécouvrons les seniors ». Alors là, on est dans un monde de fous, on rejoint un thème qu'on a traité il y a par là 2-3 ans sur les seniors, on est dans un monde de fous, parce que je vous rappelle quand même que du point de vue de la NPE, moi qui vais avoir 50 ans cette année, je suis traitée, enfin du Pôle emploi, j'appartiens à la catégorie senior, c'est quand même assez intéressant, hein, donc parler de réseau à 50 ans. Bon, soit.
Rassurez-vous, le point titre, la vie, je sais pas, commence à 50 ans. Donc, vous voyez, hein, vous êtes senior d'un côté, mais vous êtes junior de l'autre.
C'est extrêmement drôle, quelque part, parce que c'est un petit peu ridicule. Et puis, dans le même temps, on est en train de se dire que finalement, il faut démarchandiser une partie de l'économie, puisqu'il y a un certain nombre de besoins pour lesquels on a, de façon mais extrêmement importante, besoin de faire appel à des bénévoles, des seniors, des retraités, des gens qui, quelque part, vont nous rendre tous ces services parce que c'est sur la place publique et qu'il faut bien lutter contre l'illettrisme, en particulier des enfants dont les parents ne peuvent pas s'occuper, qu'il faut bien visiter je ne sais qui et je ne sais quoi et je ne sais où, que bref, aujourd'hui, finalement, notre société, elle va recourir à une capacité de travail gratuite et bénévole, dont on considère encore qu'elle doit être volontaire, mais pour combien de temps, on ne sait pas, parce que peut-être qu'un jour, il y aura un impôt en nature, on va dire qu'il y a un impôt tout court, quoi, je veux dire, où il faudrait rendre service à la communauté, et quelque part, effectivement, ça rejoint aussi ce que disait monsieur, la personne en statut retraité est considérée comme devant quelque chose aux autres. De ce point de vue-là, on peut établir un parallèle avec celui qui est bénéficiaire d'allocation au chômage, dont les gens considèrent qu'il doit quelque chose, qu'il se la coupe douce et qu'auprès de la communauté et qu'il y a un dû. Enfin, c'est assez incroyable. Je pense que les dimensions de ce système de retraite, c'est le principe de la dégénérescence finalement du système de retraite par répartition en particulier, c'est que dans un sens, on manifeste, on légifère, etc., etc. Puis dans un autre sens, quelque part, aujourd'hui, la société, elle dévalorise ça, quoi. Enfin,
oui. Oui, tout à fait. Donc très bien, là, vos apports. Au fond, enfin, moi, je les inscrirais dans le cadre de la première étape, la première partie que j'ai évoquée, c'est-à-dire la retraite comme retrait du travail, où on s'aperçoit bien que la retraite ne prend là sa consistance que par rapport justement au monde du travail, et en particulier justement comme variable d'ajustement, etc. C'est-à-dire qu'elle n'a pas en quelque sorte de valeur propre, elle est définie par rapport au travail, et pourquoi pas comme valeur variable d'ajustement avec toutes les ambiguïtés. C'est-à-dire, de ce point de vue-là, il y a une grande ambiguïté, c'est-à-dire que d'un côté, effectivement, on célèbre le départ à la retraite, et puis derrière, comme vous le dites très bien, c'est... voilà, enfin, il libère de la place, on va prendre un jeune, il coûtera moins cher, enfin, bon, etc., etc. Donc, on a là toute une série d'ambiguïtés, tout à fait. Hein, vous avez parfaitement raison. Oui,
ouais,
tout à fait. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Bon.
Et c'est un problème qui, avec l'allongement de la durée de vie, est un problème qui deviendra de plus en plus important.
Oui, oui. Oui, oui.
Pour laquelle le système par répartition est condamné d'un point de vue économique.
Oui.
Simplement, il y a un but comme une prestation sociale, puisque dans un système par répartition, on prend dans la poche de l'un pour que l'autre réinvive. Dans un système par capitalisation, comme c'était le cas effectivement des familles en retraite, c'était une épargne petit à petit et une épargne de, effectivement, c'est l'état des droits.
Oui.
Une répartition des devoirs. Des devoirs. Donc il est assez logique, effectivement. Il pourrait y avoir un impôt en négatif, tout à fait. On pourrait exiger finalement que de jeunes retraités doivent donner leur vie un peu du temps, sinon ils payent des impôts. C'est la logique. Par capitalisation, c'est le moins droit. Par capitalisation, vous créez une rente par épargne, par votre épargne. Donc ça peut être de l'épargne collective ou de l'épargne individuelle. Mais par répartition, il est bien évident que c'est effectivement assimilé à une allocation. Et aujourd'hui, la retraite de la sécurité sociale est une retraite par répartition. La retraite des régimes cadres est une retraite par capitalisation. Pour autant, son rendement est plus médiocre. Enfin, devient tangentiellement de plus en plus médiocre, plus égard, on va dire, à la masse salariale par rapport à la masse de retraite, hein, qui est finalement quelque chose d'économiquement... Enfin, c'est mathématique.
Ah oui. Votre intervention signale au minimum que, je dirais, notre système de protection sociale, etc., généreux dans son inspiration, etc., eh bien, aujourd'hui, est largement dévié par non seulement un certain nombre de phénomènes type allongement du durée de la vie, bon, etc., qui les rend, voilà, mais par ailleurs aussi par, je dirais, l'évolution libérale et individualiste de la société dans laquelle nous sommes. Parce que, effectivement, ce qui relevait, je dirais, au fond, d'un esprit de solidarité, est beaucoup plus difficile, je dirais, à faire fonctionner dans une société où la solidarité n'existe plus. Ces grands systèmes de protection sociale ont été obtenus, je dirais, au cours de luttes sociales qui se menaient au nom de la solidarité, etc.
La solidarité, vous voyez, l'exemple type, c'est la retraite des cheminots.
Effectivement,
oui, une retraite parce que les gars respirent du charbon pendant leur vie, et ils avaient un régime spécial, effectivement, les allocs partaient à 46 ans à la retraite. À l'époque, ils devaient vivre peut-être, ils devaient mourir en moyenne à 52 ans. Aujourd'hui, quand on parle de cheminots, c'est valable pour les employés du guichet ou ceux qui vendent tranquillement dans les bureaux, qui ont des avantages qui sont ceux aujourd'hui qui ne sont pas justifiés. Effectivement, le système de solidarité est tout à fait dévoyé d'un point de vue. Et beaucoup, on est dans un très